Cet après-midi, j'aimerais vous parler d'un homme qui a beaucoup souffert à cause de son péché, un homme qui a beaucoup souffert à cause de ses méfaits, on pourrait le dire comme ça, mais un homme aussi qui a su trouver la grâce de Dieu, un homme qui a su chercher au bon endroit, un homme qui a su être devant Dieu avec un cœur sans fraude, un cœur qui était droit devant Dieu. J'aimerais qu'on puisse lire un psaume ensemble qui nous parle de l'expérience de cet homme, c'est le psaume 32. Nous avons chanté à « Donnez-moi mille voix pour crier ». Là, cet homme-là, il était tellement heureux, suite à la transformation qu'a été la sienne, qu'il l'a écrit. Il l'a écrit, il en a fait un chant, et nous l'avons aujourd'hui. Et combien de fois nous arrêtons-nous sur ce psaume? Combien de fois nous arrêtons-nous sur ces paroles, sur cette expérience? C'était vraiment l'expérience d'un homme qui a découvert une délivrance. Je commence la lecture. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi. Tu me gardes de la détresse. Tu m'entoures de cris de délivrance. Je t'instruirai. Là, il paraphrase Dieu qui lui parle. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de bienveillance. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Comme nous l'a, je ne l'ai pas cité, c'est un psaume de David. L'homme dont il est question, c'est David, le roi David, celui dont les Juifs ont encore le nom sur la bouche, le grand roi de David, celui dont le successeur est appelé le fils de David. Le successeur comme étant le Messie que les Juifs attendent encore aujourd'hui, que nous connaissons, qui est Jésus, le fils de David. Et là, il est question de David, un homme qui était... un homme comme vous et moi, un homme qui n'était pas parfait, qui malgré tout, un homme qui aimait Dieu, un homme qui avait appris à connaître au fil des années la bonté de Dieu. Et plus il a vieilli et plus il a appris à connaître comment Dieu pouvait être bon avec les hommes. Et on a ce jeune homme qui est plein d'amour pour Dieu. Et Dieu a vu l'état de cœur de cet homme et un jour a fait alliance avec lui et il est devenu le roi d'Israël à travers bien des combats, bien des luttes, mais jamais il n'a abandonné, il a toujours fait confiance à Dieu. Et Dieu avait fait alliance avec David. C'était un homme dont l'Éternel dit qu'il était selon son cœur. C'était un homme qui avait quelque chose de spécial. Mais malgré tout, c'était un homme qui avait aussi ses faiblesses. C'était un homme qui avait des problèmes. Et pourtant, Dieu savait ces choses. Dieu savait ce que ferait un jour David. Et pourtant, un jour, Dieu a fait alliance avec lui. Dieu a fait de David le roi qu'il est devenu. Et alors qu'il était roi, on découvre un peu la face cachée de ce roi. On découvre la face cachée de cet homme selon le cœur de Dieu. Et on découvre que, finalement, c'est un homme comme vous et moi. C'est un homme qui a souffert par ses faiblesses. Et combien il a dû souffrir. Combien il a dû souffrir. Cet homme avait une première faiblesse, c'est qu'il aimait les femmes. Il aimait beaucoup les femmes. Et ça a été un piège pour lui. Un jour, il s'est laissé tenter. Je ne sais pas si cet après-midi, c'est quelque chose qui est dans votre vie, un problème avec les femmes. Cet homme a eu ce problème. Et tel que nous l'avons lu, si tu as ce problème-là, tu peux être délivré. Ce problème avec les femmes l'a amené dans une situation terrible. Ça a commencé par une relation hors mariage, parce que la seule relation entre un homme et une femme que Dieu bénisse, c'est une relation qui a lieu dans les liens du mariage. Et j'aimerais te dire cet après-midi que si tu n'es pas dans cette situation, si tu fréquentes un homme, une femme, et que tu as des relations avec elle en dehors des liens du mariage, tu es dans une situation que Dieu n'approuve pas. Et David est tombé dans ce piège. Le problème, c'est que la femme dont il s'est épris était la femme de d'un de ses meilleurs amis. C'était un roi, et l'homme en question vivait à côté de chez lui. Quand on est roi, on fait ce qu'on veut. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on est roi, on décide qui sont ses voisins, vous ne croyez pas? Et David, certainement, il ne s'est pas retrouvé au logement HLM du coin et qu'on lui dit, bah tiens, tu vas aller là. Il y en a d'autres qui sont déjà là, mais non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. David, il a eu son palais, mais tout autour de lui, il a mis les hommes en qui il avait une pleine confiance. Il a mis tout autour de lui les hommes en qui il avait aussi une grande amitié. Et non seulement cet homme était un de ses meilleurs soldats, mais en plus, c'est un homme qui est cité dans les héros de son armée. Et non seulement cet homme faisait partie de ses meilleurs soldats, mais en plus, c'était quelqu'un qui vivait, c'était son voisin. C'était son voisin. Alors que David était dans son palais à se promener, il vit la femme de cet homme. C'est qu'ils étaient pas loin. Et alors, il s'est épris de la femme de son meilleur ami. C'est des choses qu'on entend souvent, ça, aujourd'hui. Ce sont des choses terribles. Ce sont des choses terribles, qui amènent des choses terribles. Et ça n'a pas manqué à l'appel. David a mis le doigt dans un engrenage qui l'a entraîné très très loin dans le péché. David a commencé avec cette femme, mais pour couvrir ses arrières, la première chose qu'il a fait d'ailleurs, c'est qu'il a trahi son ami. La trahison, est-ce que c'est quelque chose qui ne fait pas mal? Est-ce que peut-être cet après-midi, tu as vécu cela? Peut-être qu'un jour, quelqu'un t'a trahi. Peut-être qu'un jour, un de tes meilleurs amis t'a trahi. Et depuis ce jour, tu en souffres terriblement. La trahison, c'est quelque chose de terrible quand on le subit. Quelqu'un en qui on avait pleinement confiance, quelqu'un à qui on a fait des confidences, quelqu'un à qui on s'est dévoilé, quelqu'un à qui on a libéré son cœur. On lui a dit ce qui nous passait par la tête. On s'est confié vraiment. Quelqu'un en qui on est allé chercher du réconfort. Et quelqu'un qui nous a fait du mal en nous trahissant. David a été cet homme qui a trahi son ami, qui plus est pour prendre sa femme. Le problème, c'est que dans la situation qu'il était, ça faisait mauvais genre quand même. Donc il a essayé de cacher cette faute-là. Il a essayé de cacher, de couvrir cette faute. Pourtant, c'est bizarre parce que on a lu dans le psaume. Vous avez lu comme moi, on retrouve le verset là, je l'ai pu, verset 5, « Je n'ai pas couvert ma faute. » Ah bon? « Je n'ai pas couvert ma faute », il écrit. Mais si, il a couvert sa faute, pendant un certain temps. David a couvert sa faute, il a cherché à cacher ce qui lui était arrivé. Et cet ami qui était Lucien, la seule solution, c'est que cet ami était intègre. Il a essayé de le faire prendre au piège. Il craignait la naissance d'un enfant. Alors il a voulu faire croire que c'était le fils de son ami. Mais cet ami qui n'était pas censé être là a été intègre et n'est pas allé vers sa femme alors que ses compatriotes, sur le front, n'étaient pas dans cette situation. Bref, la seule solution qu'a eue David a été de faire tuer son ami. Il en est allé jusqu'au meurtre. David était un menteur, un traître, un meurtrier, un adultère. Le roi, l'homme, selon le cœur de Dieu, tout ça d'un seul coup. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que le péché est quelque chose qui nous entraîne beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Et on se dit tous, oh allez, c'est pas grave. Allez, je vais juste sur un petit site pornographique, ça va me soulager. Et on met le doigt dans quelque chose, dans la saleté qui nous entraîne et nous entraîne, et va nous faire sentir misérables. On met le doigt dans quelque chose. Allez, une bouteille de plus. Et je reprends la boisson. Et je bois. Mais le problème, c'est que l'alcool que j'ingurgite, me fait dire des choses que je ne maîtrise même plus. Me fait devenir violent avec ceux qui sont autour de moi. Me font devenir une loque humaine parce que je ne sais même plus marcher. Le péché peut nous entraîner loin. Et combien de personnes sont ainsi sous l'effet de l'alcool, ont été des causes de mort d'autres personnes. Je ne veux pas sermonner sur l'alcool au volant, mais combien de personnes prennent le volant alcoolisées et ont le malheur de faire mourir d'autres personnes et se retrouvent avec des morts sur la conscience à cause d'un verre de trop. Est-ce qu'on peut se rendre compte, est-ce qu'on peut ouvrir les yeux quelques instants sur où est-ce que le péché peut nous entraîner ? David a été dans cette situation. David a été dans cette situation où il s'est laissé entraîner, il s'est laissé prendre par quelque chose qu'il pensait inoffensif, un plaisir. Il a voulu prendre du plaisir. Il a eu quelques minutes de plaisir, mais derrière, la facture est salée. Et je ne vais pas en rester là, parce que David, c'est quand même quelqu'un qui s'est repris. Certes, effectivement, il a caché dans un premier temps cette situation. Et tout le peuple d'Israël voyait ainsi le bon roi prendre la femme de son meilleur ami qui était mort au combat. Quelle bonté ! David, le sauveur de la veuve, de la pauvre veuve qui ne pourrait plus subvenir à ses besoins. Je dirais même la grande classe. Voilà ce qu'était perçu du peuple. Mais il y en a un qui n'était pas dupe, c'est Dieu. On ne peut rien cacher à Dieu. On peut faire croire aux autres, à ceux qui nous entourent, qu'on est ceci, qu'on est cela, qu'on est comme ci, comme cela, qu'on est bien rangé, qu'on a une vie tranquille, alors que derrière, on cache des choses dont on a honte. Ça, on peut le cacher aux hommes, mais à Dieu, on ne peut pas le cacher. Là, on a un homme qui a été transformé, qui écrit ce psaume. David a été transformé. Que s'est-il passé ? Un jour, Dieu a fait le premier pas vers David. Ça faisait à peu près un an qu'il faisait l'hypocrite devant tout le monde. Ça faisait un an qu'il faisait croire que tout allait bien, alors qu'il y avait quelque chose. On l'a lu dans ce psaume. On peut reprendre le verset. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. » Effectivement, ce qu'il a vécu était comme une blessure en lui-même. Et forcément, j'imagine que son comportement quotidien devait bien changer. Ça devait être un David un peu râleur, un David qui devait vite se mettre en colère. Ça devait être un David qui souffrait. Et quand on souffre, vous avez déjà vu des bêtes blessées ? On nous dit toujours d'éviter de nous frotter à des bêtes blessées parce qu'elles sont dangereuses. David était une bête blessée, était quelqu'un de blessé. Quand on est blessé, quand on est dans la souffrance, on est aussi très agressif. Et Là, dans une autre version, c'est pas dit « gémissez », c'est dit « rugissez ». Parce que David criait, il était agressif. Et pendant un an, il a dû subir ça parce qu'il ne voulait pas avouer son péché. Il essayait de se couvrir. Mais il n'avait pas compris une chose. C'est que c'était pas à lui de se couvrir. Parce qu'elle est là, la bonne nouvelle. C'est que Dieu veut te couvrir. Il veut couvrir ton péché. Seulement devant lui, il faut le reconnaître. Parce que il faut quand même que justice soit faite. Il faut que justice soit rendue. Et tout péché consommé doit être payé. Pourquoi David a pu être ainsi pardonné? Parce qu'elle a eu quand même, il a eu un moment où il a eu le cœur droit. J'aimerais qu'on lise quelques versets de l'autre psaume qui fait référence à cette histoire, c'est le psaume 51. Quand Dieu est venu vers lui par un prophète, lui dire dans quel état il était, lui révéler qui il était vraiment, alors le sang de David n'a fait qu'un tour. Et c'est là qu'on voit toute l'honnêteté de cœur de David. Devant la révélation de Dieu, alors que Dieu était en train de lui dire qu'il était un pécheur, qu'il était certes peut-être dans la souffrance, mais qu'il était dans le péché et qu'il avait besoin de régler des choses avec Dieu, David n'a pas refusé. David n'a pas refusé de faire le point avec Dieu et d'avouer sa faute. Dans le psaume 51, je lis ceci, c'est une prière de David au moment. Il l'a écrite aussi parce qu'il voulait s'en souvenir. Il voulait s'en souvenir de cette histoire. Et il a même écrit la prière qu'il a faite à Dieu, parce qu'il voulait vraiment se rappeler d'où il était sorti. Voici ce qu'il écrit, verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. On a un David qui croit que Dieu peut faire quelque chose. Il ne sait pas quoi, mais il le croit. Annonce. Moi, la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Il le demande, il supplie Dieu, il a compris comment Dieu le voyait. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il a conscience que Dieu avait fait alliance avec lui, et en aucun cas, il voulait que ça s'arrête. Il voulait continuer à vivre selon les désirs de Dieu pour lui, parce qu'il avait compris que ce que Dieu voulait pour lui, c'était le meilleur. Il a compris que pendant un an, il a souffert. Il a compris que pendant un an, il a ouvert les yeux sur son état personnel. Et c'était pas une partie de plaisir pour lui. Ses os se consumaient. J'aimerais te dire cet après-midi que oui, le péché peut amener des problèmes de santé. Alors certes, celui qui tombe dans l'alcoolisme, qui tombe dans le tabac, qui tombe dans des choses comme ça, ça c'est, je dirais, presque naturellement. Mais des péchés peut-être plus sournois, par exemple le refus de pardonner, la culture de la haine contre quelqu'un, la rancœur, l'amertume, ce sont des choses aussi qui physiquement ont des conséquences. Et les médecins sont d'accord pour le dire. Celui qui vit ainsi, il va se créer des problèmes de santé. Et c'est encore un effet de plus du péché, comme quoi ce que David écrit. Il n'est pas allé consulter les médecins quand il a écrit cela. Il a été inspiré parce que c'est la réalité. Quand on est dans l'amertume sans cesse, quand on est dans la haine, on nourrit quelque chose à l'intérieur qui ne nous fait pas du bien. Et ça finit par un cancer, par exemple. Ça finit par des choses qui deviennent sérieuses. Je ne dis pas que c'est le cas systématiquement, mais je l'ai lu, je l'ai vérifié sur des écrits de personnes qui ont étudié le problème, et ils se sont rendus compte qu'en proportion, des hommes et des femmes qui vivaient l'amertume et la haine étaient plus malades que ceux qui étaient dans la paix. Il ne faut pas s'étonner. Le péché est quelque chose qui nous ronge. Et même jusque dans notre corps. David implore Dieu. Il voit sa souffrance. Il reconnaît sa faute. Mais il sait aussi une chose, c'est que Dieu est vivant et que Dieu est miséricorde. Dieu. Il sait. que Dieu est capable de ne pas le traiter selon le mal qu'il a commis. Il ne sait pas encore comment Dieu s'y prend pour ainsi lui faire miséricorde. Ça, on le sait aujourd'hui, et je vais y venir, mais David avant ne le savait pas. Mais il savait une chose, c'est que Dieu pouvait lui pardonner, et que Dieu voulait lui pardonner, était prêt à le faire. Alors il supplie Dieu honnêtement. Il demande à Dieu la grâce. Il demande à Dieu la délivrance, le pardon de ses péchés. Il va devant Dieu, il s'approche de Dieu, le cœur repentant. Et il demande, il pleure sur lui-même. Voilà ce qu'a fait David. Non, il n'a pas couvert sa faute. Tant qu'il l'a couvrait, il n'était pas bien. C'est ça que dit le psaume. Le psaume 32, je reviens au psaume 32. Mais à partir du jour où il a réglé le problème avec Dieu, alors sa vie a complètement changé. Je t'ai fait connaître mon péché. Vous croyez que Dieu ne le savait pas, justement ? Il avait besoin d'écrire « Je t'ai fait connaître mon péché ». Pourquoi David écrit ça ? Sachant que c'est un prophète qui lui a fait connaître son péché. Là encore, on peut se dire « Mais c'est bizarre ». C'est écrit cela parce que ce que Dieu veut, c'est une repentance profonde. Dieu connaît nos péchés, oui. Et il sait qu'on a besoin d'être pardonné. Et il désire te pardonner. Seulement, il faut être honnête avec Dieu. Il ne faut pas couvrir tes fautes. Et il faut les reconnaître. Et je dirais presque, du moins, celles dont tu te rappelles, tu es alcoolique ? Alors, demande pardon à Dieu parce que tu es alcoolique. Tu es menteur ? Demande pardon à Dieu pour tes mensonges. Il peut être un peu trop facile de venir à Dieu et de dire « Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, Amen. » Et hop, là, on passe à autre chose et la vie reprend son cours. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je t'ai fait connaître mon péché. Il y a une vraie démarche de réflexion, de se dire « Tiens, de quoi suis-je coupable ?» Et David a fait cet effort, il s'est rappelé. Pour qu'il puisse écrire « Tant que je me suis tué ». Ça veut dire qu'il a fait cet effort de se rappeler sa souffrance pendant cette année, mais de retourner à l'origine. Et il a fait connaître à Dieu son péché. Il s'est repenti de tout ce qu'il avait fait. Il a demandé pardon à Dieu et il a été pardonné. Voilà pourquoi c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Ce n'est pas par les œuvres que Dieu peut nous couvrir. Ce n'est pas parce que David aurait pu se dire « Bon, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Seigneur, aide-moi à m'améliorer. » Non, il n'a pas fait ça, David. Il s'est mis en règle. Ça veut dire qu'il a fait le point avec Dieu. Il a dit « Voilà, il y a ça dans ma vie qui ne vont pas. Seigneur, pardonne-moi et viens à mon secours. » Et cet après-midi, j'aimerais que ce message soit l'occasion pour toi de faire la même chose. Que tu puisses toi aussi découvrir que tu ne seras pas pardonné par tes propres efforts, mais par le fait qu'un jour, quelqu'un aime payer pour que tu puisses l'être. Jésus-Christ est venu sur la terre sans commettre de péché. Et il est mort sur une croix, on l'a chanté. Il a souffert terriblement de l'abandon, du mépris, des insultes, mais souffrances physiques, le fouet, les clous, la croix. Ça a été terrible de souffrance, ce que Jésus a vécu, pour que nous puissions être pardonnés. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui s'est dépouillé de toute sa gloire, celui qui était Dieu, celui par lequel tout a été créé, par sa parole tout a été créé. Il a quitté cet état de gloire pour venir marcher parmi les hommes, comme le plus petit d'entre les hommes. Il est resté droit, il n'a jamais péché. Et les hommes ne l'ont pas reconnu. Les hommes n'ont pas reconnu en lui le Dieu créateur, n'ont pas reconnu en lui celui qui était venu pour faire du bien aux hommes et non du mal. Jamais il n'a dit quelque chose de mal à quelqu'un. Dès que quelqu'un était malade dans son entourage, cette personne était guérie. On ne peut pas décrire, c'est l'apôtre Jean qui le dit, tous les miracles que Jésus faisait. Combien en faisait-il par jour ? On ne sait rien. Mais il y a dû avoir un paquet de miracles, parce que Jésus, c'était Dieu. Jésus, c'était celui par lequel Dieu œuvrait parmi les hommes. Tout ce que faisait Jésus était miracle. Toute parole était parole de connaissance, de sagesse. Et pourtant, notre condamnation est tombée sur lui. Il a porté mon péché. Il a porté ton péché. Ton alcoolisme, il l'a porté. Ton ivrognerie, il l'a porté. Tes souffrances avec le tabac, il les a portées. Tes soucis avec la pornographie, bref, quelle que soit ta dépendance, il l'a porté. Quel que soit ton péché, il l'a porté. Lui qui était la lumière du monde, quand il était sur la croix, il y a eu une éclipse de 3 heures. J'ai une éclipse, c'est pas une éclipse, mais il y a eu des ténèbres pendant 3 heures. 3 heures. Pendant 3 heures, il a fait noir sur toute la terre. La lumière du monde était en train de mourir, était en train de s'éteindre. Alors il a fait noir. Pourquoi ? Parce qu'il portait mon péché, il portait ton péché. Et c'est par sa mort à la croix, il l'a fait par amour pour toi. Si tu crois, alors tu peux être pardonné. David a cru que Dieu pouvait lui faire miséricorde. Mais en plus que David, nous savons pour quelle raison on peut être pardonné. Et cet après-midi, j'aimerais te dire que si tu crois dans l'œuvre de Jésus à la croix, tu peux faire la même expérience que David. Tu peux connaître la délivrance. Tu peux connaître la libération de ta dépendance. Cette chaîne qui est là peut être brisée du jour au lendemain si tu t'approches de Dieu. Et tu avoues ta faute. Ton péché sera couvert. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Il est écrit dans une autre version, dont le péché est couvert. C'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix qui me couvre de mon péché. Ainsi, quand Dieu me regarde, il ne voit pas moi, il ne voit pas mon péché, mais il voit l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, parce que j'ai cru dans l'œuvre de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse lire un texte dans le livre de Zacharie. Et on a là l'exemple parfait qui nous montre ce qui attend celui qui, devant Dieu, avec un cœur sincère, vient à lui. Et on y voit justement de quelle manière Dieu va l'accueillir. J'aimerais que si un jour ta vie devait être reprise, tu puisses vivre ces moments. Zacharie, chapitre 3. On a là une scène extraordinaire. C'est l'image de ce qui nous attend un jour. On a Dieu, on a Jésus-Christ qui est notre avocat auprès du Père, celui qui nous défend. Et alors qu'on devrait être sous l'accusation du diable, alors qu'on devrait être sous l'accusation du diable à cause de nos péchés, Jésus est là et il montre ses mains et dit « J'ai payé pour ». Mais là, cette scène, on y voit tout le monde. Au verset premier, « Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué. » Vous pouvez mettre votre nom à la place. « Debout devant l'ange de l'Éternel et Satan debout à la droite pour l'accuser. » Vous voyez la scène ? Le diable qui nous accuse, on est devant Dieu. On est devant Dieu avec le diable d'un côté, Jésus de l'autre. « L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. » Que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. Il est question de l'image de celui qui s'est converti. On tourne la page, enfin pour moi je tourne la page, on avance de quelques versets, et j'aimerais qu'on lise le verset 3, et 4 et 5. Or Josué, couvert de vêtements sales, se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il lui dit, « Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent sur sa tête le turban pur, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. C'est le désir de Dieu pour toi. Le turban, de quoi ça veut dire? De quoi parle le turban? De la royauté. Ceux qui avaient un turban, c'était les hommes qui étaient haut placés. C'était ceux qui étaient haut placés. Et nous avons là l'image parfaite de celui qui se repent de ses péchés, qui devient fils de Dieu. Fils de Dieu. Cela veut dire que tu es fils de roi, si tu te repens. Là, on a là l'image de quelqu'un qui se repentit, qui est accueilli dans le ciel, alors que ses vêtements sont sales. Ses vêtements sont changés en vêtements de roi. Dieu désire ainsi te revêtir. Dieu désire te faire du bien. Et comme on l'a lu dans le psaume 32, je reviens à nouveau sur ce psaume, les deux premiers versets montrent dans quelle attitude vit David au jour le jour. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute. Celui qui règle le problème du péché avec Dieu, qui reconnaît ses fautes et ses transgressions, qui s'approche de Dieu de tout son cœur, sachant que Dieu veut lui faire grâce. Dieu veut te faire grâce. Dieu veut te délivrer de ton péché et de ce qui t'enchaîne. C'est son désir. Si tu le fais, si tu viens repentant, tu demandes à Dieu sa grâce, si tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi sur la croix, qu'il a donné son sang jusqu'à la dernière goutte pour que tu sois pardonné, alors tu peux l'obtenir, pas par tes œuvres, mais par la foi dans son œuvre, à lui. Et voyez ces versets s'ils ne sont pas beaux. Quelle est la suite? Versets 8 et 9. Verset 8. Voilà comment Dieu se comporte avec celui qui lui appartient. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Pour te faire du bien, je rajouterai, parce que tu auras fait la paix avec Dieu. Le regard de Dieu, c'est la sécurité. C'est parce que Dieu me regarde qu'il va m'éviter de tomber à nouveau. Parce qu'il va m'éviter de me perdre à nouveau. Parce que Dieu prend soin de moi. Dieu prend soin de ceux qui lui appartiennent. Et peut-être, je dirais même que Dieu prend soin de toi avant même que tu lui appartiennes. Seulement, il y a aussi le verset 9, et je terminerai là-dessus. 9 et 10. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et à mort dans ton lépard afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. J'aimerais te dire cet après-midi que le méchant, c'est qui? Le méchant, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. C'est celui qui est rebelle à ce que Dieu dit. C'est celui qui n'en fait qu'à sa tête, comme le mulet sans intelligence, et qui croit mieux savoir que les autres, alors que Dieu dit clairement où est la connaissance. La connaissance, elle est en Dieu. Et moi, Dieu attend de moi que je reste à ma place, mais que je reconnaisse ma faute simplement, et que j'accepte que Jésus soit mort à la croix pour moi, pour me sauver, que j'accepte que sans rien mériter, il y a un Dieu qui m'aime. Il y a un Dieu qui m'aime pas pour ce que j'ai fait ou mal fait d'ailleurs, mais il m'aime simplement parce que je suis sa créature. Il était écrit dans ce texte que les douleurs attendent le méchant. Pourquoi? Parce qu'un jour, ce ne sera plus possible de venir à Dieu comme ça. Un jour, il ne sera plus possible d'être pardonné de cette manière. La porte de la grâce se fermera un jour. La grâce, c'est quoi? C'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Autrement dit, sans faire de jeu de mots, mais quand Dieu nous fait une miséricorde, quand Dieu fait miséricorde avec nous, c'est une grâce. Parce que quand on n'a pas la punition qu'on devrait avoir, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas non plus. Dieu veut te faire grâce cet après-midi. Dieu veut te délivrer. Dieu veut complètement te sauver, te laver de ton péché, si seulement tu voulais venir à lui. avec un cœur honnête et sincère devant lui, comme David. Avec ce même cœur, reconnaissant ton péché, reconnaissant le besoin de bénéficier de la grâce de Dieu. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. On va prendre un chant. Et pendant ce chant, j'aimerais qu'on puisse réfléchir. Et si, d'aventure, ce message t'a interpellé, et je l'espère, alors tu peux demander à Dieu du secours. Si tu te sens trop faible pour crier à Dieu, alors viens sur le devant. Et nous nous associerons à ton cri. Nous nous associerons à ta supplication. Et moi ou Olivier, on priera pour toi. Parce que Dieu désire te faire du bien cet après-midi. Il désire te faire grâce. Il veut te bénir. Il t'aime tel que tu es. Il n'aime pas le péché qui est en toi, ça c'est sûr. Et il veut te laver. Mais c'est la responsabilité t'en revient, de demander à Dieu de te laver. Si tu ne le demandes pas à Dieu, tu vas garder tes vêtements sales. Et ils ne seront pas changés. Dieu désire te laver. Mais c'est à toi de le vouloir. Est-ce que tu veux être heureux? Est-ce que tu veux obtenir de Dieu la grâce qu'il veut te donner? Alors approche-toi sur le devant pendant ce chant. Et nous prierons avec toi. Que Dieu vous bénisse.